Poursuivons l'histoire du prophète Balaam, ce savoureux récit que nous rapporte le livre des Nombres au chapitre 22 et suivant. Je vous en rappelle le contexte. Les Hébreux sont arrivés sur les rives du Jourdain, aux portes de la terre promise. Mais un ennemi d'Israël, le roi Balak, a décidé de prendre les grands moyens contre eux. Pour cela, il envoie chercher le sinistre Balaam, un sorcier de Mésopotamie, pour qu'il fasse tomber sur le peuple élu, du haut de la montagne, la plus terrible des malédictions. Balaam accepte le job, d'autant plus que l'affaire est bien payée. Mais il a quand même quelques hésitations. En effet, cet homme est un païen, un adorateur des idoles. Et pourtant, le vrai Dieu s'est adressé à lui et l'a averti. Pas question qu'il lance contre Israël une seule parole mauvaise. Il ne devra dire que ce que Dieu lui permettra de dire. L'épisode cocasse de l'ânesse qui parle le lui a fait bien comprendre. Dieu le surveille et ne le laissera pas faire n'importe quoi. Voilà donc notre ensorceleur professionnel sur le point d'exercer son méchant métier. Et comme il a le sens de la mise en scène, il met le paquet. Au sommet d'une colline, il fait dresser 7 autels de pierre sur lesquels sont immolés 7 taureaux et 7 béliers. Le sang coule, le feu brûle, une odeur de viande rôtie se répand. Balaam est debout, les bras levés, les spectateurs sont tétanisés. Le moment fatidique est venu, enfin les mots qui sèment le malheur vont sortir de sa bouche. Mais au lieu de cela, patatrac, la situation se retourne. Balaam, dit la Bible, prononce son poème. Et ce poème, loin de maudire Israël, le bénit. Ce faux prophète païen, Dieu l'inspire. L'Esprit de Dieu vient sur lui, agite en lui, et le voilà devenu un authentique prophète. Lui-même n'en revient pas, ne comprend pas ce qui lui arrive. Il s'écrie « Comment maudirai-je quand Dieu ne maudit pas ? Comment fulminerai-je quand Dieu ne fulmine pas ? Oui, de la crête du rocher, je le vois, du haut des collines, je le regarde. Voici un peuple qui habite à part, qui n'est pas rangé parmi les nations. » Le roi Balak, évidemment, est furieux. « Que fais-tu ? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et tu prononces sur eux des bénédictions ?» Et Balaam de s'excuser. « Désolé, majesté, mais j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. » Alors Balak l'emmène sur une autre colline et lui dit « De là où tu étais, tu ne voyais pas bien ce peuple. D'ici, tu seras mieux placé pour lui jeter un sort, pour lui balancer ta malédiction. » Et de nouveau, on s'affaire, on élève 7 autels, on égorge 7 taureaux, 7 béliers, le sang coule, la fumée se répand, Balaam lève les mains en tremblant, tout le monde est bouche bée, mais de celle du prophète, aucune malédiction ne tombe, au contraire. Le voici qui dit dans son deuxième poème « J'ai reçu la charge d'une bénédiction, je bénirai et ne me reprendrai pas. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni de souffrance en Israël, car le Seigneur son Dieu est avec lui. » Le roi Balak est consterné. Alors il tente le tout pour le tout et emmène Balaam sur une haute montagne, comme dans le récit des tentations de Jésus au désert. Pour la troisième fois, on bâtit des autels, on immole des taureaux et des béliers, le sang et la fumée se répandent, et cette fois-ci, Balaam va encore plus loin. Sous l'action de l'Esprit, il fait un extraordinaire éloge du peuple qu'il a devant les yeux. Il dit, dans son troisième poème, « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que Dieu a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. » Il y aura encore un quatrième poème, le plus connu, dans lequel Balaam annonce la venue d'un Messie qui se lèvera dans le peuple d'Israël et qui règnera sur toutes les nations. « Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Un astre issu de Jacob devient chef. Un sceptre se lève issu d'Israël. » Cet astre mystérieux, toute la tradition chrétienne y a reconnu une prophétie de la naissance du Christ à Bethléem. Et on dit que les mages venus d'Orient, voyant l'étoile se lever, on sut que la prophétie de Balaam était sur le point de s'accomplir. Ainsi, un prophète païen, de façon inattendue et un peu étrange, a pris place aux côtés des prophètes hébreux, et depuis 33 siècles, ses paroles sont reconnues par les juifs et les chrétiens comme inspirées par Dieu. Mais je voudrais revenir sur le troisième poème dont je vous ai cité tout à l'heure le plus beau verset. « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve. » En vérité, cette phrase, comme la prophétie de l'étoile, soulève des questions très intéressantes, et cela à travers des détails de traduction assez peu connus. En effet, de l'hébreu au grec et du grec au français, on constate des déplacements et des nuances que je ne peux pas entièrement exposer aujourd'hui, mais dont je voudrais vous donner au moins un aperçu. Premièrement, la phrase de Balaam « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, ô Israël » se trouve bien, telle qu'elle, dans le texte hébreu. Mais dans le texte grec de la Septante, les mots sont inversés. Il est dit « Que tes demeures sont belles, Jacob, et tes tentes, ô Israël ». Pourquoi ce changement ? Pourquoi parler d'abord des demeures, c'est-à-dire des maisons, et ensuite des tentes ? Pourquoi commencer par ce qui suggère le solide, le permanent, le durable, et continuer par ce qui suggère le mouvement, le provisoire, le voyage ? J'aurai à vous montrer que de cette différence, qui au départ est peut-être simplement une erreur de copiste, Origène tire un enseignement très profond, repris par d'autres pères de l'Église, sur le mouvement et sur le sens de notre vie spirituelle. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir le faire aujourd'hui. Mais il y a un autre point dans la prophétie de Balaam qui m'interroge. En hébreu comme en grec, la suite du texte dit, non pas « comme des jardins au bord d'un fleuve », selon la traduction courante, mais plus exactement « comme des jardins sur un fleuve », en hébreu. Et en grec, comme des paradis sur des fleuves. Voyez-vous ça? Un jardin sur un fleuve? Et mieux encore, un jardin qui serait un paradis? Un paradis sur un fleuve? Ou plutôt, des paradis sur des fleuves? Quelle image étrange, n'est-ce pas? Mais si elle est inspirée par Dieu, cette parole ne peut pas être insignifiante. Décidément, le bon vieux Balaam a encore quelques trésors à nous ouvrir. J'essaierai de les scruter avec vous.